Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec maintenant, comme chaque soir, le débat des grandes voix du vendredi. Michel Cotta, bonsoir.
Bonsoir.
Jeannick Halimi est avec nous ce soir, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Emmanuel Duteil, en charge du service éco, vous le savez, d'Europe 1. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Relocaliser, est-ce si simple? C'est l'un des grands enjeux de ces prochaines années, nous a dit Emmanuel Macron pendant le confinement. Et bien ce matin, il était en déplacement chez l'un des leaders français de la chimie pharmaceutique avec une enveloppe 15 milliards d'euros.
Dans le plan de relance qui sera d'un peu plus de 100 milliards d'euros, il y aura 15 milliards pour l'innovation et les relocalisations et en particulier 1 milliard d'euros vraiment d'aide directe construite avec les industriels pour permettre d'apporter une aide de l'État qui aide à relocaliser, c'est-à-dire à parfois à compenser pendant un temps donné le petit déficit qu'on avait historiquement.
Voilà, de l'argent pour relocaliser, c'est déjà un bon début, mais ça ne fait pas tout. D'abord, Emmanuel Duteil, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de ces industries essentielles qu'il faut relocaliser?
L'exemple qui a été pris aujourd'hui, c'est pas un hasard s'il est allé du côté de l'industrie pharmaceutique, parce que ça fait vraiment partie des industries où on s'est rendu compte avec cette crise qu'on était aujourd'hui dépendant de la Chine et de l'Inde. Pourquoi? Pas vraiment parce qu'on a délocalisé les médicaments, mais on a délocalisé la production de tout ce qu'on appelle les principes actifs. Les principes actifs, c'est quoi? C'est ce qui permet de fabriquer un médicament. Par exemple, on va prendre l'un des médicaments les plus connus en France, le paracétamol, de nom même la marque, le Doliprane. On ne peut plus en produire en France parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour le produire. Donc là, typiquement, du côté de chez Sanofi...
Ça veut dire que si demain, on coupe toutes les distributions entre l'Asie et l'Europe, il n'y a plus de paracétamol en France.
Si demain la Chine bloque les principes actifs, on ne peut pas fabriquer de paracétamol.
Donc on est dépendant à 100% pour le paracétamol.
Pas totalement à 100%, mais en grande partie.
Oui.
Donc c'est par exemple ces industries qui vont être relocalisées. Après, la grande question sous-jacente de toutes ces relocalisations, c'est est-ce qu'on peut vendre au même prix derrière? Et typiquement, il y avait sur l'antenne d'Europe 1 le patron de Sanofi France il y a de ça quelques jours, il prenait justement l'exemple du Doliprane en disant « moi je ne peux pas m'engager à vous dire qu'on le vendra de au même prix, parce que si on a délocalisé, c'était bien pour un gain. Donc il va falloir réussir à trouver une solution pour relocaliser, pour vendre à peu près au même prix, parce que ça va être compliqué de dire aux gens « aidez-nous grosso modo à payer ces relocalisations ».
Alors la question du coût du travail, c'est une question dont on parle souvent, on va y revenir. Michel Cotta, peut-être d'abord une réaction sur cette intention de l'exécutif de relocaliser. Derrière les mots, peut-il y avoir des actes ?
En tout cas, il y a une intention qui n'était pas prévue au fond au début du quinquennat. Et on voit très bien comment le Covid, de ce point de vue-là, a tout changé. C'est vrai que Emmanuel Macron apparaissait comme le champion d'une mondialisation heureuse, mettons. Et puis, effectivement, au bout de 3 ans, oui, il faut sûrement relocaliser les choses. En effet, la France ne peut pas rester privée d'un certain nombre de médicaments, ça c'est évident, mais même de substances
nécessaires. Oui, on l'a vu aussi avec les masques, on l'a vu le gel hydroalcoolique, on l'a vu avec plein de choses.
Il faut voir pourquoi la mondialisation a eu lieu. C'est parce qu'on paye moins cher ailleurs des choses qu'on fabriquait plus cher ici. Donc,
mais est-ce qu'on avait prévu, quand on s'est lancé, ça s'est fait à petits pas, dans ce grand tout de la mondialisation, qu'un jour il y aurait le Covid, qu'un jour on serait dépendant à 100% de produits de première nécessité comme la médecine?
Non, mais on se disait aussi que pour la France, c'était pas mal la mondialisation aussi, parce que pour tout ce qui y est, Airbus, etc., heureusement, c'est ça qui ruine la thèse du mouvement national, c'est qu'on ne peut pas se fermer entre nous, fermer les frontières, parce que la mondialisation peut être... réussi. Alors peut-être qu'il faut voir du côté des prix et du côté des salaires.
Mais on voit que, par exemple, Emmanuel Macron ne parle plus de l'automobile, par exemple. En tout cas, de relocaliser les voitures.
Sauf pour les voitures électriques.
Oui, sauf, et encore, même pas à la rigueur, pour ce qui va permettre de les fabriquer, pour les batteries.
Quelle est la valeur ajoutée?
Voilà.
Jeannick Halimi.
Jeannick
Halimi. Que vous me regardez et que vous cherchez mon nom. Oui, alors moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. J'apporterai juste une petite correction, pardon Michel, à ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'Emmanuel Macron n'avait pas prévu une telle problématique en termes de délocalisation et surtout qu'il n'avait pratiquement rien mis en œuvre pour faire en sorte que le mouvement s'inverse. C'est vrai, dans les mesures prises, dans la politique mise en œuvre, on peut dire que globalement, ça n'était pas sa priorité, c'était plutôt la mondialisation heureuse, comme vous dites. Mais tout de même, souvenons-nous, pendant la campagne, le déplacement qu'il a fait, en même temps d'ailleurs que Marine Le Pen, on ne sait pas qui avait rejoint l'autre, c'est plutôt Marine Le Pen qui avait rejoint Emmanuel Macron en 2017 sur le site de Whirlpool.
Absolument.
Vous vous souvenez de l'électroménager? Et là, il était bien question de la problématique d'une délocalisation de cette entreprise donc, d'électroménager en Pologne. Donc Emmanuel Macron y a eu droit frontalement à cette problématique.
Mais à ce moment-là, il n'avait pas dit qu'il fallait relocaliser Whirlpool. Il avait dit qu'il fallait trouver un avenir à ce site industriel. Et au début du quinquennat, ça a toujours été la politique du gouvernement.
Mais pourquoi est-ce qu'en France, l'industrie a fichu le camp plus que, par exemple, les Allemands? Attendez, Michel Cotta, j'ai retrouvé le chiffre. L'industrie en France ne pèse plus que 10% de notre PIB, c'est moitié moins qu'en Allemagne. Pourquoi ?
Oui, parce qu'on a laissé filer.
À cause des charges essentiellement, pardon.
À cause des charges sociales, du coût du travail et le fait que nos hommes politiques aient quand même laissé filer quelque part à l'industrie. Il y a quand même aussi cette impression que pendant 30 ans, on s'est dit plus on délocalise, plus on gagnera d'argent. Et après tout, c'est la loi du marché.
Oui.
Voilà, enfin, il y a quand même des moyens, sans doute, maintenant, de revenir.
Il y a les charges sociales et il y a tout ça, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on est sur deux modèles industriels totalement différents. C'est-à-dire que l'Allemagne a un tissu industriel avec ce que nous, on appelle en France des ETI et qu'on appelle là-bas le Mittelstand allemand. Des entreprises qui ne se délocaliseront jamais parce que ça fait partie de leur histoire, que ce sont des familles allemandes qui sont là.
Et oui, mais c'est le virage que veut prendre l'exécutif aujourd'hui.
Bien évidemment, c'était juste pour répondre à votre question. Pour répondre à votre question, pourquoi on les a laissés filer ? Et parce que nous, on a cru, il y a une trentaine d'années en France, que ce qu'on appelle le tertiaire, donc les services. Et nous, en revanche, l'Allemagne n'est pas numéro 2 mondial des hôtels quand nous, on a accord ou ce genre de choses. C'est-à-dire que nous, on a fait un autre pari que le pari industriel.
Il y a un autre élément qui explique la différence entre l'Allemagne et la France, au-delà des coûts de production, dont le différentiel a passablement baissé, parce que depuis plusieurs années, les charges pesant sur... Ou les cotisations, comme disent volontiers les syndicats, les cotisations sociales...
équivalent. J'ai les derniers chiffres du quatrième trimestre 2019. Niveau du coût de l'heure de travail, c'est 37,50 € en France, 37 € en Allemagne.
Ça a considérablement baissé. Et d'ailleurs, le mouvement de délocalisation en termes d'emplois délocalisés, c'est passablement, notoirement, sensiblement infléchi sur une dizaine d'années.
Pour la première fois l'année dernière, on a même recréé des emplois industriels.
Il y a un autre élément à ce que vous disiez. C'est que, au-delà des charges sociales, il y a le modèle. Alors là, ce sont les entreprises qui ont peut-être pâti, parce que contrairement à l'Allemagne, qui a toujours visé et s'est positionnée sur le haut de gamme, où des marges et la concurrence est moins importante, la France, notamment dans l'automobile, est restée sur du moyen de gamme, où la concurrence est féroce, et où la concurrence par les prix...
Gardez-en un peu pendant quelques secondes.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on poursuit le débat des grandes voix du vendredi à 18h40 avec Michel Cotta, Janika Limi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien, et Emmanuel Dutheil en charge du service éco d'Europe Soir. On parlait de cette intention de l'exécutif de relocaliser avec cette enveloppe annoncée aujourd'hui de 15 milliards d'euros par Emmanuel Macron lors d'un déplacement. Question pour vous, Emmanuel Dutheil, maintenant, est-ce que la baisse des impôts de production annoncée par Jean Castex, ça peut avoir un impact? 10 milliards d'euros par an pendant 2 ans, si j'ai bien suivi.
Ça, c'est une mesure extrêmement importante. Alors, je pense que là, on a perdu la plupart de nos auditeurs en leur parlant des impôts de production, parce que personne ne sait ce que c'est.
On en a beaucoup parlé dans l'actualité.
Raison de plus pour leur expliquer.
Mais juste, c'est les impôts qui pèsent, grosso modo, avant que les entreprises vendent, c'est-à-dire au moment où elles produisent. Et c'est vrai qu'en France, c'est très particulier, mais ces impôts sont extrêmement importants et ça fait des années...
Ça concerne surtout les grandes entreprises.
Ça concerne effectivement plutôt les grandes entreprises. Donc ça, effectivement, c'est une mesure extrêmement importante puisque ça va permettre aux entreprises d'être plus compétitives dans la bataille mondiale. C'est-à-dire, grosso modo, elles vont pouvoir vendre moins cher leurs produits puisqu'elles auront obtenu une baisse des impôts. Donc oui, ça c'est un élément...
Ça fait baisser le coût de production.
Ça fait baisser le coût de production. Donc ça peut effectivement permettre, là, de relocaliser certaines activités qui, jusque-là, après, il faut juste espérer que les entreprises jouent véritablement
le jeu.
Parce qu'en période de Covid,
c'est toujours la question.
Pas...
Question que je posais juste avant la pause, Michel Cotta. Je vous ai vu opiner du chef en me disant non. Est-ce que les Français sont prêts à payer plus cher pour acheter français?
Non, je ne sais pas. Je ne pense pas que les Français soient prêts à payer plus cher. C'est quelque chose de très difficile. Mais d'abord, premier point, il y a peut-être dans les entreprises. Peut-être regarder, et vous verrez que ça sera reposé par la gauche à l'occasion des futures élections, on peut regarder quand même le salaire des actionnaires, le salaire des présidents, on peut renier peut-être là-dessus, on peut renier sur les profits.
Oui.
On peut renier sur les profits.
Mais sur industries comme l'automobile, ça pèsera peu de choses sur le coût de fabrication.
Oui, mais c'est très intéressant l'automobile, parce qu'on voit qu'on peut miser sur de nouvelles stratégies, sur de nouveaux... sur de nouvelles règles sur de nouvelles industries. Oui. Par exemple, oui, l'électricité, c'est très bien. Non, c'est vrai, on ne rattrapera jamais notre retour en matière d'automobile.
Oui, les grands enjeux d'avenir, c'est les panneaux solaires, c'est les batteries électriques, c'est des industries à haute valeur ajoutée, c'est ça ?
C'est sans doute la seule voie dans laquelle un gouvernement peut, aujourd'hui, un gouvernement français,
alors,
s'engager.
Sur la question du coût du travail...
Avec le critère de la transition écologique
Et du coût de vente, quand même. Alors, c'est des sondages, les sondages valent ce qu'ils valent, mais tout de même, à titre d'exemple, j'ai vu dans un sondage OpinionWay sorti récemment que 70% des Français seraient prêts à débourser en moyenne 7 € de plus pour un t-shirt fabriqué en France plutôt qu'un t-shirt fabriqué en Chine.
Oui. Oui, moi je pense, alors moi, globalement, il ne faut pas trop amputer le pouvoir d'achat des Français, notamment des catégories les plus modestes, parce qu'effectivement, 1 euro, c'est 1 euro, je suis d'accord avec Michel Cotta. Il n'empêche qu'avec le mouvement de prise de conscience, moins d'ailleurs des effets économiques que justement des critères qualitatifs comme l'environnement, la santé, il y a peut-être une évolution de la mentalité des Français. Alors 7 euros sur un t-shirt... dans l'absolu, j'ai bien dans l'absolu, oui, pas en proportion.
C'est beaucoup, c'est 7 euros de plus. Hein.
En proportion.
Quand on connaît les prix qui sont pratiqués par les enseignes de fast fashion,
bien
c'est
sûr,
beaucoup.
Mais est-ce qu'il serait... Alors moi, je ne connais pas combien coûterait une voiture électrique fabriquée en 100% en France, mais si...
Alors moi, j'ai le coût supplémentaire d'un smartphone fabriqué 100% aux États-Unis, parce qu'un smartphone s'est fabriqué dans 8 pays différents. Si tout était fabriqué aux États-Unis, ça coûterait 100 $ de plus par smartphone, pour la marque à la pomme
là,
notamment.
Quand on voit la marge d'Apple, on peut le vendre au même prix. Je vous rassure, il n'y a pas de souci.
Alors quand même, je ne suis pas sûre qu'on soit prêt aujourd'hui, en tout cas tous les Français soient prêts à payer une automobile fabriquée à 100% français 3 000 ou 4 000 € de plus qu'une voiture avec des pièces délocalisées.
Donc cette idée de relocalisation, c'est pas possible dans tous les secteurs, c'est ça ?
C'est pas possible dans tous les secteurs, sauf à avoir des aides ciblées, comme semble vouloir le faire le gouvernement, qui pourrait baisser le coût de production de produits fabriqués en France. Et je voudrais dire aussi que l'autre élément sur lequel tous les pouvoirs publics essaient de jouer, c'est au niveau de l'Union européenne. C'est très compliqué d'empêcher les délocalisations au niveau de l'Union européenne. Par contre, toute la bataille qu'a menée Emmanuel Macron, mais pas seulement, porte sur les travailleurs détachés, qui consiste non pas à tirer vers le bas les coûts de production, mais à essayer de faire monter par le haut les ouvriers, les salariés de Bulgarie ou de Roumanie, où les cotisations sociales sont beaucoup moins élevées. C'est une autre forme de combat, ça aussi. Oui. Et dernier point, la gauche, notamment la gauche radicale, pas que, Arnaud Montebourg ou les Insoumis, estiment pour certaines industries stratégiques, ma foi, il faut nationaliser au moins partiellement certaines entreprises pour qu'elles restent en France.
Michel Cotta.
Justement, certaines entreprises, la relocalisation totale n'existera pas.
Ou
ça,
c'est fini. La réindustrialisation.
Oui, ça c'est fini. Mais on peut réindustrier ou surveiller certains secteurs. Le commissariat au plan, par exemple, en principe, sera nommé pour ça.
On dit que ce sera fait semaine prochaine en Conseil des ministres.
Mais ça veut dire qu'il faut de temps en temps une stratégie à long terme, et que là, on a l'impression qu'on est coincé par une stratégie qui a été déterminée il y a 30 ans, et qu'il est très difficile de remonter maintenant.
Dernier mot, Emmanuel
Ducaille. Je trouve qu'il y a quand même un point sur lequel le gouvernement agit correctement, c'est justement sur les batteries. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup moqué de Bruno Le Maire quand au démarrage, il y a quelques mois, il a dit « je vais lancer un grand plan batterie et tout ». Force est de constater qu'on a mis aujourd'hui des milliards d'euros, que les premières pierres pour les usines commencent à être construites. Donc je pense que quand il y a un investissement européen, et qu'il y a on peut aujourd'hui sûrement réussir sur des secteurs à haute valeur ajoutée.
Et des secteurs nouveaux.
Tout n'est pas perdu. Parce que si on part du principe que tout est perdu, à la rigueur, hop, on ferme le rideau.
Et on en parlera la semaine prochaine aussi, à l'occasion de la présentation du plan de relance. Ce sera jeudi, 18h47. Dans un instant, on change de sujet avec les grandes voix du vendredi. On parle sécurité. L'insécurité sera-t-elle le talon d'Achille du gouvernement à la rentrée? À l'instant même, Emmanuel Macron déplore la banalisation de la violence qui s'est durcie, dit-il, après le confinement. On en parle dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Il est 18h50 avec toujours le débat des grandes voix du vendredi. Michel Cotta, Annick Elimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien, et Emmanuel Dutheil en charge du service éco d'Europe 1. On parle sécurité maintenant, ou d'insécurité plutôt. Talon d'Achille du gouvernement en cette rentrée, la question se pose. Le sujet s'est invité, vous le savez, dans l'actualité cet été. Agression dans les transports publics, violence après la défaite du PSG, violence aussi contre les élus qui se multiplient. Du coup, eh bien, l'opposition joue sur l'idée d'un laxisme du gouvernement. Une voix parmi d'autres, celle de Nadine Morano, écoutez.
S'agissant des forces, de nos forces de sécurité, c'est 110 policiers, gendarmes, pompiers agressés par jour. Donc on ne peut plus tolérer ça. On est arrivé à un cap record de près de 1000 homicides bientôt par an. L'augmentation des coups et blessures volontaires. On est face à une montée de la violence dans notre pays qui n'est plus tolérable. Nous avons besoin d'une réponse pénale qui soit forte et mesurée par rapport à ce qui se passe dans notre pays.
Bien, c'est de bonne guerre. Hein. Ça fait 20 ans qu'on entend ça, la réponse pénale, le laxisme, la réponse sécuritaire. Mais au-delà des émotions, du sentiment, c'est une question pas facile que je vais vous poser, Jenny Calimi. Au-delà du sentiment de l'opinion, y a-t-il vraiment une montée de la violence du quotidien en France ?
Je crois que sur ces dernières années, les chiffres, alors pardonnez-moi, je n'ai pas les statistiques en tête, j'ignorais que alors, vous alliez me poser la question.
L'an dernier, en 2019, ça augmente, j'ai les chiffres, plus 8% pour les violences physiques.
D'accord.
Et les violences verbales notamment. Mais quand on élargit la focale depuis les années 90, la hausse n'est pas si importante que cela.
N'est pas si importante que ça, mais c'est peut-être ce que vous disiez dans votre question contenait votre réponse. C'est au quotidien, et c'est peut-être ça aussi qui fait la différence du ressenti, comme on dit, de nos jours. Et notamment, pendant la période de confinement, on sait que la violence intrafamiliale, notamment conjugale ou sur les enfants, a beaucoup augmenté. Donc, c'est peut-être pas encore dans les statistiques que vous avez, Julien, mais il semble vraisemblablement que celle de 2020 donc, risque d'augmenter. C'est un fait. Encore faut-il ne pas se tromper de violence et donc y adapter les forces, aussi bien préventives que pénales, au type de violence caractérisée.
Et je le disais, Emmanuel Macron, qui est face à la presse en ce moment, la presse des journalistes Écho notamment, déplore la banalisation de la violence qui s'est durcie, dit-il, après le confinement. Michel Cotta.
Oui, mais c'est bien le problème. Je ne sais pas les statistiques, mais là, les statistiques ne disent rien. Il y a moins d'homicides, par exemple, mais il y a tellement plus d'incivilité.
Oui.
Il y a tellement plus de violence partout. Et moi, j'étais très...
Vous le ressentez.
Ah ben oui, on le ressent. Oui, oui. Quand on voit coup sur coup les types de Grenoble, alors c'est peut-être une provocation, j'en sais rien. En attendant, c'est insupportable que des gens armés...
Il
y a Internet et la distribution des mitraillettes quand même et des armes qui circulent partout. Il y a tous les jours quand même quelque chose. Peut-être qu'il y avait... On peut dire qu'au Moyen-Âge aussi, tous les jours, on était attaqués dans la rue.
Ouais.
Je veux bien.
Ouais, ouais.
Mais il y a une forme de violence
que
je trouve excessive en ce moment.
Est-ce que c'est un aspect de la mission régalienne qu'Emmanuel Macron n'a pas perçu, n'a pas senti, ou peut-être trop tard?
Je pense qu'il il la sent comme tout le monde. On préfère, quand on est président de la République, on préfère la sécurité à l'insécurité. Simplement, au fond, j'ai l'impression que tout le monde se contente un peu de mots. Tout le monde se contente de mots. Ah, il faut punir, aucun acte ne passera. Finalement, on ne fait rien. Et quand Nadine Morano parle du code pénal, eh bien, moi, ça va vous surprendre, mais je suis plutôt d'accord avec elle et je crois plutôt qu'il y a dans le code pénal des choses à revoir, étant donné la nature précise de la violence en France aujourd'hui.
Ce matin, Libération, Emmanuel Dutheil titre sur la surenchère sécuritaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a une surenchère ou est-ce qu'on est dans une préoccupation qui est en lien avec ce qui se passe?
Non, mais il y a effectivement en ce moment une sorte de surenchère sécuritaire. On voit qu'il y a beaucoup de tensions sûrement dans la société. Mais c'est vrai que vous citiez, en regardant un petit peu sur le passé, je suis allé voir le service police-justice pour avoir leurs sentiments avant de venir en studio.
Bravo.
Si on regarde de façon assez claire les chiffres, il n'y a pas une augmentation si importante que ça. Il y a aussi les médias qui aujourd'hui
mettent les réseaux sociaux.
Oui. Et il y a une violence du quotidien qui n'existait peut-être pas avant. C'est vrai que maintenant, à chaque match de foot, vous avez un problème. À chaque manifestation importante, vous avez un problème. Et on a toutes ces images.
Non, c'est la violence gratuite.
C'est une forme de violence, effectivement, gratuite.
Qui gêne.
Je pense qu'Emmanuel Macron, au démarrage, où là je ne suis pas tout à fait d'accord avec Michel, n'en a pas pris conscience, pense pour une seule chose, c'est qu'il pensait que l'amélioration économique allait se régler dans le pays. Et je pense qu'il a pris ce prisme-là en se disant « je vais améliorer l'économie, je vais donc améliorer le lien et je vais améliorer le vivre ensemble. Et de cette amélioration découlera naturellement une baisse. Et peut-être que l'incarnation également de ceux qui ont représenté l'État, avec notamment Christophe Castaner,
la ligne Valls, souvenez-vous, sous François Hollande.
Oui, et puis il paye le rôle du Parti Socialiste quand même, et des socialistes, et des quinquennats précédents. Et il n'y a plus d'incarnation de la lutte contre la sécurité. Oui, il y a eu Sarkozy, Darmanin a essayé un peu d'être le petit Sarkozy sans y arriver. Maintenant,
c'est un boulot
présidentiel.
Jeannick Halimi.
Moi, je crois quand même que les choses ne sont pas aussi manichéennes que ça. Et je crois qu'il y a une prise de conscience dans tous les partis politiques, y compris à gauche, cette volonté que la sécurité est une valeur cardinale et l'ordre public à défendre. La gauche en prend conscience. Vous vous souvenez, depuis une vingtaine d'années, il y a eu ce qu'on appelle le syndrome Jospin en 2000, qui avait notoirement, pour le coup, mais c'est il y a quand même 20 ans, donc une génération pratiquement, sous-estimé le concept, le problème de sécurité. Pour mettre en avant ce que vous disiez, l'économie, je pense que là, la gauche en a tiré les conséquences, peut-être moins la France insoumise
bien,
que d'autres.
On verra ça aux journées.
Merci Michel Cotta, merci Emmanuel Duteil. Merci à tous les trois. À 18h56,
Julien Bugier.
18h56, Europe Soir continue dans quelques secondes avec le journal de 19h. Et on ouvre, comme chaque soir, le Club des idées. Ce soir, on s'intéresse au bien-être animal. Les écolos en font-ils trop ? Réponse après la pause.